Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute de ce numéro de rentrée de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Et oui, c'est l'heure de la reprise pour Mélomanie, après la longue parenthèse des vacances estivales. J'espère que vous en avez tous profité pour vous reposer, vous détendre et peut-être assister à quelques concerts lors des nombreux festivals organisés dans notre région. Quelques-uns sont d'ailleurs en cours en ce moment, et notamment Piano Jacobin, dont la 46e édition s'est ouverte jeudi avec le récital de Fazil Say. Elle se poursuit jusqu'au 30 septembre. Il y a 18 concerts cette année, 18 programmes donnés par 18 pianistes que nous allons vous présenter lors de cette émission. Et pour ce faire, j'ai invité Paul-Arnaud Péjouan, le cofondateur et co-directeur artistique de ce magnifique festival qu'il organise depuis 1980 avec Catherine Dargoubet. Je retrouve aussi, à l'occasion de ce numéro de rentrée, mon ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous lançons donc cette nouvelle saison de Mélomanie avec une première rubrique agenda entièrement consacrée au 46e festival Piano Jacobin.
Mélomanie, l'agenda.
Bonjour Paul Arnaud, bonjour Serge, très heureux bonjour. D'inaugurer cette nouvelle saison de Mélomanie, la 9e. En votre compagnie, nous allons nous plonger ensemble dans le programme de l'édition 2025, la 46e donc pour ce festival qui se déroule depuis 45 ans dans le décor féerique du cloître des Jacobins à Toulouse, à deux pas de la place du Capitole. On s'approche tout doucement du cinquantenaire de ce grand événement musical et je me faisais la réflexion, Paul Arnaud, que les festivals qui atteignent cet âge vénérable sont rares, mais qu'ils le sont encore plus à l'atteindre en ayant gardé leurs deux fondateurs à leur tête. C'est pas commun tout de même cette longévité, est-ce que vous en êtes conscient ?
Oui, on en est conscient sans en tirer aucun titre de gloire. Je crois qu'il faut remercier le Seigneur de continuer à nous protéger. Et je pense aussi que les très bons concerts ont des ondes bénéfiques et nous maintiennent dans un enthousiasme permanent, surtout avec tous les jeunes que nous invitons chaque année et cette passion des découvertes que nous avons et les légendes qui sont un peu les colonnes, comme les colonnes du cloître du festival et que nous sommes très heureux d'accueillir aussi à tour de rôle à chaque édition.
Puis cette longévité repose aussi sur votre complicité, votre complémentarité avec Catherine Dargoubet depuis 45 ans.
Depuis que nous étions étudiants l'un et l'autre, moi en droit et elle en médecine. Et donc voilà, c'est une amitié qui reste intacte et c'est une grande joie pour nous et une grande joie de continuer. Évidemment que l'objectif du 50e, il est dans nos têtes. Hein. Bien sûr, c'est quand même une date magique et on espère l'atteindre en pleine forme.
Un demi-siècle, c'est quelque chose.
Exactement.
Hein. Pour un festival en particulier qui est le premier festival de piano qui ait été fondé en France.
Merci Serge, c'est la vérité puisque nous avons été fondés un an avant la Rock d'Anteron.
Eh oui, voilà. Bravo.
Voilà, exactement.
L'antériorité, le droit d'aînesse. Depuis sa création, vous l'avez rappelé, l'une des vocations du festival est de faire venir à Toulouse les plus grands pianistes du monde, mais aussi d'offrir un tremplin aux jeunes talents du clavier international. Beaucoup ont débuté ou quasi débuté à Piano Jacobin depuis 1980, notamment un certain Bertrand Chamaillou, pour parler d'un Toulousain. La programmation de l'édition 2025 reste fidèle à cet esprit. On y retrouve des habitués et des fidèles du cloître des Jacobins et un grand nombre de nouveaux noms, des musiciens à découvrir. C'est Fazil Say qui a ouvert la 46e édition jeudi, concert suivi le lendemain par celui de la jeune pianiste russe Anna Genutchene. Ce samedi 6 septembre à 20h a lieu la première carte blanche donnée à un pianiste de jazz, en l'occurrence à l'espagnol Moises P. Sanchez. Il va y en avoir deux autres, le mardi 9 avec le japonais Makoto Ozone.
Et dont les apparitions solo sont rares en France. Hein.
C'est vrai.
Il joue souvent en trio, mais en solo c'est assez rare.
Et le samedi 13 avec l'américain Mika Thomas, le piano de jazz Paul Arnaud, c'est une tradition bien ancrée au festival et toujours très appréciée du public.
Oui, ça fait, je pense, près de 20 ans maintenant que nous avons ce cycle dans le festival consacré au piano jazz et particulièrement au piano solo, même si nous avons eu de temps à autre piano trio et, ou piano avec contrebasse, mais c'est pour nous une dimension très importante. C'est aussi une fidélité à notre partenaire historique, la Fondation BNP Paribas, qui est particulièrement engagée dans le soutien de la musique de jazz en France, et notamment des jeunes musiciens de jazz français. Et donc c'est pour nous un projet cohérent. On est très heureux d'accueillir Moisés P. Sanchez pour sa première apparition en France. Donc ça sera une surprise, je pense, excellente. Nous le verrons ce soir. Et ça fait partie aussi de, comme nous avions présenté l'année dernière, Carla Martinez avec un programme sud-américain qui avait enthousiasmé le public pour son premier concert aussi en France. Nous continuons dans cette tradition. Avec Makoto Ozone, on en reparlera, qui est quand même une des légendes du jazz dans le monde aujourd'hui, qui a une carrière extraordinaire et qui va venir jouer en solo au cloître. Ça, on en est très heureux et très fiers.
Nous retournons au piano classique avec la pianiste arménienne Vardoui Yeritsian, lundi 8 septembre à 20h au cloître, bien sûr. C'est une musicienne que vous avez déjà reçue au festival.
Oui.
Et elle revient avec un programme très original où il est beaucoup question de papillons.
Oui, parce que c'était une collaboration, on a eu pendant, je crois, plus de 10 ans, une politique de commande d'œuvres en création mondiale au festival. Et une de ces commandes était faite à Bruno Mantovani, qui avait écrit un petit cycle de piano qui s'appelait Papillon. Et on est très heureux que Vardoui Yeritsian reprenne ce cycle autour de la thématique des papillons dans la musique, thématique importante, avec notamment Schumann et Grieg. Et je pense que ce sera un concert très original, avec une certaine fraîcheur aussi. C'est bien dans l'esprit du festival.
Avec des œuvres originales, par exemple, Les Papillons Noirs de Massenet, j'avoue que je ne connais pas.
Moi non plus, je ne connaissais pas, je dois l'avouer. Mais on n'a pas de culture encyclopédique. Hein, et ça fait partie aussi de la joie des programmations, de découvrir certaines œuvres. Parce que ça aussi, c'est une des caractéristiques. On laisse toujours la carte blanche aux pianistes de présenter vraiment le concert, les œuvres qu'ils ont envie de défendre à un moment donné de leur vie. Et ça, je crois que c'est très important.
Et nous allons pouvoir papillonner avec Vardoui Yeritsian en l'écoutant jouer l'une des deux pièces pour piano de Jules Massenet que vient de citer Serge Chosy, Papillon blanc. Papillon blanc, la seconde pièce pour piano composée par Jules Massenet, un extrait d'un CD enregistré il y a un an par Vardoui Yeritsian. La pianiste arménienne est en concert au Cloître des Jacobins le lundi 8 septembre à 20h. Le concert suivant a lieu le mercredi 10 septembre, toujours à 20h, et il va permettre au public du festival de découvrir un jeune pianiste américain, Clayton Stephenson, dont ce sera la première venue à Toulouse. Paul Arnaud, qu'est-ce qu'on peut dire pour le présenter et quel programme va-t-il jouer ce soir-là?
Il va jouer un programme qui aura quand même une coloration américaine, même s'il y aura les impromptus de Schubert et trois mouvements de Petrushka de Stravinsky. Mais il va jouer des pièces très peu jouées, notamment un arrangement autour de Over the Rainbow, qui est une des pièces qui est le plus reprise par tous les grands jazzmen du monde, et particulièrement au piano. Et la Rhapsody in Blue de Gershwin, la version piano. Donc je pense que ce sera un concert extrêmement dynamique, et c'est une personnalité forte. C'est son premier concert en France et on est vraiment très heureux de présenter Clayton Stephenson à cette occasion.
Oui, alors passé par la Juilliard School et puis soutenu par la Lang Lang Foundation à ses débuts. Voilà, donc pianiste à suivre et à découvrir. Le lendemain de ce concert, on retrouve le jeudi 11 septembre un habitué du Cloître des Jacobins, le pianiste argentin Nelson Gerner. Paul Arnaud, je crois qu'on peut dire que c'est un véritable ami du festival et que vous avez toujours grand plaisir à le programmer.
Oui, c'est un magnifique musicien. Alors, je ne fais jamais les comptes de combien de fois ils sont venus, mais je pense qu'avec Elisabeth Leonskaya, et, voilà. C'est sans doute un des pianistes qui est venu le plus souvent au Cloître.
Bah, on peut dire qu'il fait partie de la famille Jacobin.
Oui, absolument. Oui, oui, oui. Absolument.
Avec des grands, d'autres grands. Hein.
Absolument, depuis 25 ans maintenant, je pense. Et on est toujours très heureux de le recevoir. C'est un magnifique musicien. Il a des qualités humaines extraordinaires. Et il présente un programme, on va dire, classique, avec Schubert, Chopin, Schumann, auquel il apporte toujours une lumière, une interprétation très singulière.
Alors en fait, il y a effectivement Chopin, Schumann, Franz Liszt, la valse oubliée, la Rhapsodie hongroise numéro 6 aussi, et puis il y a Ravel, les valses nobles et sentimentales qu'il avait enregistrées il y a quelques années. Donc c'est un programme varié et, j'allais dire, costaud. C'est très, très virtuose. Et je suis très heureux de pouvoir vous proposer un extrait de ce programme de Nelson Gerner, interprété par ses bons soins. C'est une des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, la numéro 8, l'épilogue, la dernière. Thank you. L'épilogue des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, la huitième et dernière jouée par Nelson Gerner, un extrait du programme du grand pianiste argentin qui se produit donc au cloître des Jacobins le jeudi 11 septembre à 20h. C'est une pianiste française qui prend la suite vendredi 12 septembre, Vanessa Wagner, qu'on n'a pas entendue depuis un bon moment à Toulouse, il me semble. Elle vient jouer un programme bien particulier, l'intégrale des études pour piano de Philippe Glass, qu'elle a enregistré il y a 3 ou 4 ans. Philippe Glass, voilà un compositeur contemporain, souvent joué à piano jacobin, Paul Arnaud.
Oui, on a le droit d'avoir des passions particulières pour des compositeurs du XXe siècle et du XXIe siècle, puisqu'il est toujours vivant. Oui, c'est vrai que c'est un compositeur que nous aimons beaucoup. On a eu pas mal d'interprètes qui ont mis des œuvres.
Notamment des pianistes américains ou pianistes américaines.
Absolument. Et ça, je pense que ça sera quand même très passionnant, parce qu'on verra qu'avec l'intégrale des études, il y a vraiment une pensée musicale extrêmement singulière, très, très forte chez Philippe Glass. Hein. On l'a toujours un petit peu cantonné dans une musique répétitive, minimaliste. Et je trouve que, contrairement au sens commun, il y a énormément d'harmonie, il y a énormément de choses très poétiques, une dimension particulière. Et c'est une musique qui nous touche beaucoup, en tout cas.
Et parler de Vanessa Wagner, vous confirmez, je crois qu'elle n'est pas venue depuis longtemps à Piano Jacobin,
oui,
et même à Toulouse.
Hein. On l'a déjà invitée, mais je ne peux pas vous dire quelle année, mais oui, ça va faire une dizaine d'années qu'elle n'est pas venue au festival, oui.
On l'avait vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Serge, et entendu, bien sûr, lors d'un concert lecture au Carmélite. Elle était venue avec la comédienne Marianne Denicourt.
Ah, oui. Absolument, oui.
Bon, il y a moins de 10 ans, je pense, mais ce n'est pas tout récent non plus. En tout cas, ce n'était pas un récital de piano seul. Alors, le lundi 15 septembre, rendez-vous avec une autre pianiste française qui a fait sa place sur la scène nationale depuis quelques années et qui est déjà venue au festival. Elle est Célia Onetto Bensaïd. Elle propose un programme fruit d'un partenariat avec le Palazzetto Bruzzane, cette institution précieuse qui œuvre pour la sauvegarde et la promotion de la musique romantique française. La jeune pianiste va nous plonger dans celle qu'on entendait à Paris dans la seconde moitié du 19e siècle, même si l'on n'y trouve pas que des compositeurs français d'ailleurs.
Absolument. Mais bon, Célia, ça fait partie du club des jeunes pianistes que l'on a particulièrement soutenu, notamment avant le Covid, quand même. Piano Jacobin est le seul festival occidental à avoir fait plus de 250 concerts en Chine en 20 ans. Dans les salles les plus prestigieuses, Théâtre de la Cité Interdite, l'Opéra de Shanghai, l'Oriental Art Center, etc. Et donc on avait une très très belle histoire musicale avec la Chine, et Célia Onetto nous a accompagnés dans un de ses périples. Vous parliez de Bertrand Chamaillou tout à l'heure, Bertrand en fait partie aussi, on a fait 3 tournées en Chine avec Bertrand Chamaillou dans ces années-là. Et donc Célia Onetto Bensaïd, pour nous, est une pianiste passionnante, avec un engagement très fort sur ses répertoires peu joués. Elle vient d'ailleurs, elle aussi, de faire un disque sur Philippe Glass aussi. Donc, il y a une concordance comme ça, tout d'un coup. Une redécouverte par les musiciens français de ce compositeur. Et c'est un programme qui va être passionnant, très peu joué, donc de découverte, on peut dire. Hein. Et on espère que le public aura cette curiosité, à la fois pour une interprète qui est une des plus emblématiques de sa génération, et pour un répertoire de la musique française du 19e, magnifiquement défendue par la Fondation Brusané, qui a une politique éditoriale admirable, n'ayons pas peur du mot. Et donc, on est très, très heureux de présenter ce concert.
Alors, je vais donner les noms des compositeurs et compositrices qu'on va entendre, parce que je pense que même Serge Chosy, vous qui êtes un puits de science, Louise Farinck.
Ah oui, Louise Farinck.
Vous connaissez son nom, mais vous connaissez sa musique.
Je me souviens d'un concert, alors je ne saurais plus vous dire par quel interprète. On a eu déjà du Farinck à Toulouse.
Elle va jouer une pièce intitulée « Air russe varié ». Donc il y aura du Chopin, donc c'est pour ça que je parlais. Certains ne sont pas français, il est à moitié français quand même.
À moitié,
et puis il a vécu beaucoup à Paris, donc voilà. Il y aura 2 pièces de Chopin, 2 nocturnes. Et il y aura les variations chromatiques de Georges Bizet. Il y a une pièce, La Gazelle, d'Alexandre Guillemant.
Oui, pas très fréquent non plus.
Non,
dans les programmes de concert.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, il y a aussi un compositeur hongrois que je ne connaissais pas du tout, Stephen Heller, élégie marche funèbre, sous-titré Oman de Frédéric Chopin.
Ah, donc c'est dans la logique des 2 pièces de Chopin.
Probablement.
Des 2 nocturnes.
Et puis enfin, une pièce de Charles Valentin, Alcan.
Oui, lui...
vous connaissez.
Mais il est connu surtout par des études. C'est-à-dire, il a beaucoup...
Et sa sonate.
Oui, ça,
qui,
ça,
qui est un monument du piano, est très rarement, pour ne pas dire jamais, joué en concert,
non,
concert
c'est
une extraordinaire difficulté.
Ouais,
c'est
une
des sonates les plus difficiles de tout le répertoire.
Vous voyez, donc, avant, il y aura eu donc, l'élégie Marche funèbre de Stephen Heller. Eh bien, lui, il va jouer trois morceaux, plus qu'un numéro 3, Morte.
Ah, c'est un titre significatif, là,
n'est-ce pas dire. On écoute Célia Onetto Ben Saïd jouer les variations chromatiques de Georges Bizet. Variation chromatique de Georges Bizet, jouée par Célia Onetto Ben Saïd, une pièce au programme du récital que donne la jeune pianiste française le lundi 15 septembre. Le mardi 16, c'est encore une jeune pianiste qui est à l'honneur. Elle est allemande et elle s'appelle Elisabeth Braus. Ce sera une découverte parce que ce doit être, il me semble, la première venue de cette musicienne à Toulouse, Paul Arnaud.
Tout à fait. C'est sa première invitation, une découverte de Catherine. Et je pense aussi que ce sera un concert... tout à fait intéressant. On est bien dans un cadre de musique européenne, parce que c'est une musicienne allemande qui a bénéficié du soutien de la BBC, qui va faire une apparition à Piano Jacobin. Donc voilà, ça prouve que la musique est vraiment aujourd'hui transfrontalière, grâce au ciel, et pacifique surtout.
Voilà.
C'est une qualité fondamentale de la musique.
Gage de paix.
Voilà, donc avec un programme très varié.
Oui, ce n'est pas des pièces qu'on entend souvent non plus, d'ailleurs.
Non plus. Les variations sérieuses de Mendelssohn-Bartholdy, des pièces de Liszt, la sonate numéro 7 de Prokofiev, qui est quand même
un énorme
morceau, on va dire, qui demande et du cœur et de l'engagement physique. Donc je pense que ce sera un concert passionnant.
Oui, il y a Bach aussi, Caprice sur le départ de son frère bien-aimé.
Oui,
ça, c'est une pièce de Bach qu'on entend beaucoup en concert.
Voilà,
et puis il y aura l'opus 119 de Johannes Brahms, hein, ces quatre pièces pour piano très très belles. Voilà, et donc la sonate pour piano numéro 7 de Sergueï Prokofiev, jeudi 18 septembre. C'est une pianiste confirmée qui lui succède, la japonaise Momo Kodama. Elle, je crois qu'elle est déjà venue à Piano Jacobin, et comme beaucoup de musiciens japonais, elle adore la musique française, ce que reflète complètement le programme qu'elle va jouer.
Oui, programme avec Debussy, avec Chopin, dont nous avons déjà souligné la double culture, et Ravel avec la pavane pour une infante défunte. Donc je pense que c'est un ensemble très cohérent. Et puis en deuxième partie, les tableaux d'une exposition de Moussorgski, qui est aussi une des œuvres, on va dire, les plus épiques de la littérature pour piano, les plus descriptives dans le bon sens du mot. Surtout quand on voit les originaux que j'ai découverts, moi, il y a très longtemps, qui ne suscitent pas une admiration particulière. Le peintre dont s'est inspiré Moussorgski ne suscite pas, on ne veut pas dire qu'il a participé à l'histoire de l'art pictural.
Non,
c'est
non.
Un peintre relativement banal, un bon faiseur, et Moussorgski transforme ses petits tableaux en purs chefs-d'œuvre musicaux.
Ah oui.
Donc c'est toujours une joie formidable d'écouter cette pièce en concert.
Que Ravel a d'ailleurs orchestré magnifiquement.
Ils voisinent tous les deux dans le programme.
Voilà.
Et c'est bien logique, hein, puisqu'il y aura Pavane pour une infante défunte de Ravel, juste avant les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski. C'est un très 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 beau programme, un programme à ne pas rater. Alors le vendredi 19 septembre, retrouvailles avec un fidèle d'entre les fidèles du festival, on en a déjà cité quelques-uns, mais voilà un autre, le pianiste américain Richard Good. Lui, je ne saurais dire combien de fois vous l'avez invité, mais je pense que ses apparitions doivent se compter au moins sur la totalité des doigts d'une main.
Oui, oui, certainement. Oui. Certainement, c'est donc un pilier du festival, comme l'a été Joaquín Achucarro, qui a eu l'amitié de nous offrir son dernier récital l'année dernière au Cloître, un moment de musique extraordinaire pour ceux qui l'ont partagé. Richard Good, il est rare en France, donc on peut dire que Catherine a su entretenir avec lui un lien très particulier, très amical, et on a un petit peu... Pas cette exclusivité, j'aime pas le mot d'exclusivité, mais on a cette affinité très particulière avec Richard Good comme interprète, et on est bien sûr, chaque fois qu'il revient, très heureux et très impatient de découvrir, parce que c'est un musicien qui a une capacité aussi d'investissement dans la musique incroyable, et là notamment on va avoir quand même...
Le programme est très difficile. Hein.
Deux sonates de Beethoven, les bagatelles de Beethoven qui sont quand même pas... Et surtout une pièce, on va dire, très complexe de Schumann, qui est les Danses de David. Je dirais que c'est une pièce qui est réservée peut-être à de très grands interprètes pour lui enlever ce côté un petit peu monumental, un petit peu figé qu'elle peut avoir. C'est par exemple un pianiste comme Arkady Volodos qui l'a transfiguré complètement et qui lui donne une poésie, un élan formidable. À la Volodos. Et je pense qu'avec Richard Good, on va avoir une interprétation de cette pièce qui va nous transporter.
Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Serge, mais c'est vraiment un programme, là encore, très costaud. Hein.
Ah, mais incroyable, avec tout de même l'Opus 101, c'est pas rien.
Ah non.
Les six bagatelles, c'est pas rien non plus.
Non plus, donc parmi les dernières œuvres de Beethoven, quoi.
Oui. Oui,
et donc il y aura la sonate en mi mineur, opus 90 également, de Beethoven. Et pour vous donner une idée de ce programme que va jouer Richard Good le vendredi 19, je propose de l'écouter justement, cette sonate numéro 27, opus 90 de Beethoven. Thank you. La sonate numéro 27, opus 90 de Beethoven, jouée par Richard Good, une des pièces au programme de son concert du vendredi 19 septembre à 20h au cloître des Jacobins. Mardi 23 septembre, c'est une autre nouvelle venue au festival que nous allons pouvoir découvrir, la toute jeune pianiste russe Alexandra Dovgan. Elle a 18 ans et elle a été repérée dès ses débuts par son illustre compatriote Grigori Sokolov, ce qui est une sacrée référence et en dit déjà long sur son talent précoce, Paul Arnaud.
Oui, c'est quelqu'un que je suis particulièrement heureux d'accueillir au Jacobin, puisque je l'ai invité il y a 3 ans à mon autre festival, l'Esprit du piano à Bordeaux. Donc elle n'avait que 15 ans à l'époque, ouais. Et on avait été littéralement sidérés par la maturité musicale et la prestance aussi. Elle a une présence sur scène qui est incroyable, naturelle. Donc c'est une magnifique pianiste. Je pense que de toute façon, Grigori Sokolov... ne s'engage pas aux arts.
Non, ça ne doit pas être le genre.
C'est une de très rares pianistes qui l'a soutenue dès le début. Et ce qui nous fait plaisir maintenant, c'est qu'elle fait une carrière internationale considérable. Elle joue à Salzbourg, elle joue à Verbier. Enfin, elle est maintenant dans tous les grands festivals. Et donc, c'était parfaitement logique de l'accueillir dans un festival aussi internationalement reconnu que Piano Jacobin. Et je pense que ça va être un concert extraordinaire.
Avec un programme,
et un programme
costaud,
aussi,
on peut dire.
La sonate Tempête de Beethoven, Barcarolle et Ballade de Chopin, Prélude, Chorale et Fugue de Franck, qui est pour moi une de mes pièces préférées de tout le répertoire pianistique, une pièce absolument majestueuse. Et Encore du Prokofiev. C'est un programme qui va lui permettre d'exprimer tout son enthousiasme.
Et toute l'étendue aussi de sa palette.
Voilà. Hein. Alors justement, elle a une palette de piano, des couleurs incroyables. Et on sent que son mentor et maître lui a quand même donné des indications très précieuses.
Superbe programme donc pour Alexandra Dovgan le mardi 23 septembre. Le concert suivant a lieu le mercredi 24. Il est donné par un Français, David Cadouche, une valeur sûre que vous avez déjà invité plusieurs fois au festival.
Que nous avons aussi amené en Chine à l'époque.
Ouais. Quand il était tout jeune encore.
Absolument. Et qui est un ami du festival, David, et qui est un extraordinaire musicien, et qui vient avec le programme de son dernier disque, qui est un programme extrêmement original, sur une thématique des amours, alors, je ne sais pas comment il l'appelait, les amours... Amour interdite.
Amour interdite.
J'aurais peut-être dit amour contrarié, mais enfin bon, s'il a choisi le titre.
Pour certains,
amour,
oui, et certaines. Et certaines.
Amour interdite. Et donc, c'est un programme avec énormément de pièces différentes.
Ah, bah oui, oui. Hein.
Ah, oui.
Et de compositeurs.
Sur cette thématique-là, je pense que ça va être un voyage musical étonnant. Et avec un interprète qui vraiment s'est mis au service de ce que j'appelle un vrai projet musical, c'est-à-dire à la fois amener son public à découvrir de nouvelles œuvres sur une thématique du cœur, on peut dire, hein, une thématique du cœur et des contrariétés du cœur. J'espère que le public viendra nombreux pour découvrir ce programme.
Bah, je vais donner les noms des compositeurs parce que certains sont très connus, d'autres le sont beaucoup moins. La première d'entre elles, c'est Ethel Smith. Vous connaissiez, Serge ?
Pas du tout.
Eh bien, voilà.
Je découvre.
Bon, après, nous avons Reynald Dohan.
Oui.
Bon, enfin, sa musique n'est pas non plus si souvent jouée que ça. Sa musique
pour piano. Surtout au piano.
Au piano,
très peu jouée.
Ses mélodies, oui.
Oui, bon, oui, les mélodies surtout qu'on entend.
Ouais. Ouais, Wanda Landowska.
Ah.
On aura des transcriptions des ballets de Tchaïkovski au piano, donc le Lac des Cygnes et la Valse des Fleurs pour Casse-Noisette. Nous aurons du Poulenc.
La transcription du Lac des Cygnes, c'est celle de
Earl Wilde,
que j'ai eu aussi le bonheur d'inviter il y a, hélas, 30 ans. Je dis hélas à cause du temps qui passe.
Oui.
C'est un géant, c'est, on aurait dit un acteur de western américain, il faisait plus d'1,90 m. C'est un pianiste, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, qui a enregistré plus de 170 disques dans sa carrière musicale, qui a écrit des transcriptions extraordinaires qui sont défendues actuellement par un musicien qui vit en France, qui s'appelle Vittorio Forte, qui a fait dans un de ses derniers CD des reprises de transcriptions d'Earl Wilde. Et donc, je suis très heureux de le voir présent, défendu et présenté par David pour ce concert.
Voilà, donc il y aura du Francis Poulenc aussi et du Chimanowski, le compositeur polonais. Donc voilà, Ethel Smith, Reynald Dohan, Wanda Landowska, Tchaïkovski, Poulenc, Chimanowski. Il y a un point commun à tous ces compositeurs et compositrices. Je laisse à nos auditeurs et à leur sagacité le soin de trouver lequel. Dans le programme que joue David Cadouche le 24 septembre, il y a entre autres des transcriptions de ballets de Tchaïkovski, on l'a dit, dont le Lac des Cygnes, cette transcription réalisée par le pianiste et compositeur américain Earl Wilde. On écoute David Cadouche jouer la danse des cygnes. La danse des cygnes, dans la version transcrite pour le piano par le compositeur américain Earl Wild, joué ici par David Cadouche. Il est donc en concert le mercredi 24 septembre à 20h au cloître des Jacobins, et puis le vendredi 26, vous accueillez une nouvelle fois Jean-Baptiste Fonlup, excellent pianiste dont la médiatisation est exactement inverse à son talent, au sens où il est très peu connu du grand public alors que c'est un très très bon musicien. Heureusement, il y a des festivals comme Piano Jacobin pour le mettre en lumière et lui rendre justice. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Paul Arnaud.
Je n'ai rien à ajouter, c'est exactement la vérité. C'est un immense pianiste qui n'a pas une immense notoriété, hélas, mais le chemin se fait. Le chemin se fait, il a quand même été engagé dans de nombreux festivals connus en France, et je pense que le temps de sa reconnaissance est venu. Il va sortir dans quelques mois une intégrale des préludes de Rachmaninov, qui est très 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 attendue, et c'est un magnifique musicien avec un engagement incroyable. En plus, c'est un des rares pianistes français qui a travaillé énormément sur le son. Mais c'est-à-dire que...
À une époque, il avait mis sa carrière entre parenthèses,
parce qu'il s'est retiré deux ans en Corse, ce qui, évidemment, sur le plan de la gestion de carrière, est une aberration totale. Il y a 20 ans, il s'est retiré, il a sa mère qui est corse, il s'est retiré dans un petit village de Corse, avec un piano, et il a lu, c'est un immense lecteur, il a une passion pour la littérature, et il a travaillé le son, il m'a raconté ça longuement, parce que lui aussi a fait partie de l'équipe des jeunes musiciens qu'on a accompagnés, qu'on a invités en Chine et au Japon, parce qu'on avait eu aussi une série au Japon, au Vietnam aussi. Donc c'est un musicien avec qui j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger et à discuter. Il a cet investissement physique dans le piano qui fait que, comme certains grands musiciens russes, on parlait d'Arkady Volodos tout à l'heure, on parlait de Lugansky, on parlait de Pletnev. Alors, ils ont des critiques, tout le monde ne peut pas rentrer, mais il y a une singularité du son, une approche du son qui est extraordinaire. Et le son de Jean-Baptiste Fonlup, pour moi, c'est un des plus beaux sons du piano en France aujourd'hui.
Alors, vous évoquiez les préludes de Rachmaninov. Ils sont au programme de son concert.
Oui.
Donc, il y aura les 10 préludes opus 23. Il y aura la troisième sonate de Johannes Brahms et puis la chaconne Bach Buzzoni qu'on entend assez souvent en concert. En revanche, c'est un programme, là aussi, pour reprendre le mot de Serge, c'est solide. Quoi.
Oui, sérieux. Sérieux, mais en même temps avec un enthousiasme. Et je pense que beaucoup d'auditeurs vont redécouvrir les préludes de Rachmaninov, la façon dont Jean-Baptiste les aborde et les transcrits, enfin les interprètes.
C'est assez rare qu'un pianiste français comme ça s'attaque à Rachmaninov.
Alors, il faut savoir quand même que Jean-Baptiste Fonlup était le pianiste français préféré de Valéry Gergiev.
Ah oui. Qu'il a joué effectivement.
Mais bien sûr, aux Nuits Blanches à Saint-Pétersbourg. Alors, Valéry Gergiev, maintenant, pour les histoires douloureuses et dramatiques de conflits internationaux, est banni d'Europe. Moi, je parle du musicien, je ne parle pas de l'homme. Et c'est quelqu'un que Gergiev, immédiatement, a adoubé. Alors que je tiens à dire que le premier concert qu'il a fait en France avec un orchestre national, c'est aussi à l'esprit du piano avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, où il avait joué le numéro 1 de Tchaïkovski avec un succès extraordinaire. Et c'est quand même formidable qu'un des plus grands chefs du XXe siècle et du XXIe aujourd'hui, même s'il est en disgrâce en Occident, ait repéré Jean-Baptiste Fonlup il y a 15 ans de cela. Et l'histoire extraordinaire, c'est qu'il lui a fait jouer le concerto pour piano orchestre de Jolivet. Tu connais ?
Jolivet, on connaît.
Qui est probablement un des concertos les plus difficiles du monde. C'est une complexité incroyable.
La musique de Jolivet n'est pas facile de manière générale, de toute façon. Hein.
Et Jean-Baptiste m'a dit, nous l'avons joué à Saint-Pétersbourg avec une seule répétition.
Oh. Oui, ça rigolait pas.
Gergiev.
Oui, évidemment. Voilà, on ne ratait pas ce concert de Jean-Baptiste Fonlup. C'est vraiment un superbe pianiste. Avant-dernier concert de cette 46e édition, le lundi 29 septembre, à 20h bien sûr, avec une proposition rare au festival du piano à quatre mains. C'est le duo formé par les pianistes Pavel Kolesnikov et Samson Tsoï qui se produit ce soir-là. Et je crois que c'est à la suite d'une suggestion d'Elisabeth Leonskaya, figure historique de piano jacobin depuis près de 4 décennies, qui fête cette année ses 80 ans. Vous lui avez donné une carte blanche pour cet anniversaire. Et c'est elle qui vous a demandé d'inviter ces deux musiciens, respectivement russes et kazakhs.
Absolument. Alors là, il y a une très grande connivence entre Catherine Darroubet et Elisabeth Lonskaya depuis très très longtemps.
Je crois que c'est 86 la première fois qu'elle vient.
Oui, oui, oui. Ça, ouais. Donc Elisabeth, je pense que c'est... Enfin, on ne compte plus.
Elle est venue plus de 10 fois.
Oui, hein. Oui. Non, mais c'est vraiment une des colonnes fondatrices du festival. Pavel Kolesnikov, il a déjà été invité à jouer à Piano Jacobin, je pense il y a 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus exactement. Samson Soy sera la première fois qu'il vient. Et c'est vrai que ce sont deux jeunes pianistes que Elisabeth soutient ardemment. Et on est très heureux de cette proposition au public. On a, en plus, c'est vrai, on a fait très peu de piano 4 mains dans l'histoire du festival. Oui. Je regarderai les archives, mais c'est peut-être une première. Je ne sais pas.
Moi, ça ne me dit rien.
Aucun souvenir.
Non, moi non plus. Non. Mais enfin bon, on vérifiera. Mais donc, en tout cas, c'est une des rares fois où on le fait. Ils ont fait un disque ensemble merveilleux à quatre mains. Et je pense que ça va être une soirée formidable et aussi extrêmement originale.
Oui, il faut bien le préciser, parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour l'occasion. Ils ont déjà joué ensemble, ils ont même enregistré un CD. Alors certes, vous avez vu le programme.
Oui.
Le Sacre du Printemps.
Le Sacre du Printemps, ce qui n'est pas rien. C'est quand même incroyable, incroyable. À quatre mains, là, il faut...
Nous aurons Franz Schubert, le divertissement à la hongroise, fantaisie en fa mineur dès 940. Programme déjà qui par lui-même suscite beaucoup la curiosité. Je vais vous proposer leur version à quatre mains du célébrissime Sacre du Printemps de Stravinsky. On l'écoute tout de suite. Sacre du Printemps, version piano à quatre mains, joué par Pavel Kolesnikov et Samson Tsoï, un duo avec lequel vous avez rendez-vous lundi 29 septembre à 20h au Cloître des Jacobins, et puis concert de clôture le mardi 30 à 20h aussi, donné par celle dont nous parlions il y a quelques instants, la grande pianiste russe Elisabeth Leonskaya. C'est évidemment tout un symbole de conclure cette 46e édition avec l'artiste que vous avez la plus souvent invité au Jacobin. On le disait, on l'a dû venir au moins 10 fois, je pense peut-être plutôt 12 ou 13. Hein.
Mmh. Alors, c'est la reine Elisabeth.
La reine Elisabeth du cloître. Mais enfin, c'est une femme merveilleuse, extraordinaire, avec une générosité, un amour du public et surtout cette école russe, qui est une école quand même pour le piano fondatrice. Elle a eu la chance d'avoir une relation privilégiée avec un musicien comme Richter. Donc on est dans
la filiation,
les plus hautes de la grande tradition pianistique russe. Et elle soutient donc là un jeune musicien hongrois, Mirai Berekh, qui qui a gagné le concours Gazanda en 2021. Donc ils vont alterner à quatre mains.
Et donc là aussi, il y aura du quatre mains, il voilà, y aura du solo du par solo. Elisabeth voilà, Lansquet ou par Michael voilà. Bertsch.
Et ça, c'est aussi une marque de sa générosité pour célébrer son anniversaire dans un festival où elle est, c'est la reine, elle est chez elle, c'est la reine du festival. Et je trouve que c'est très beau, c'est une symbolique magnifique de se tourner comme ça vers la jeunesse et de se faire accompagner par un jeune musicien qui, je n'en doute pas, sera passionnant, parce que je ne peux pas croire que le choix d'Elisabeth Leonskaya soit un choix discutable. Évidemment.
Mais ça m'étonnerait, effectivement. Si elle a voulu le mettre en lumière à côté d'elle, c'est qu'évidemment, elle croit beaucoup en lui, en son talent et aussi en son avenir. Le programme, alors je vais vous le donner, parce que pour s'y retrouver, c'est pas simple entre ce qui va être solo quatre mains et solo par l'un ou par l'une. Donc il y aura les danses hongroises, une sélection des danses hongroises de Johannes Brahms. Là, ce sera du quatre mains. Il y aura En plein air de Béla Bartók. Ben là, c'est son compatriote Michael Bertsch qui va le jouer. Il y aura les deux études de concert de Franz Liszt. C'est encore le jeune pianiste hongrois qui va jouer ça. Et il y aura de nouveau Bartók, trois burlesques par le pianiste hongrois. Il y aura la Rhapsodie hongroise de Franz Liszt, numéro 12, toujours par Michael Bertsch. Et puis, il y aura la sonate en si bémol majeur D960 de Schubert que va jouer Elisabeth Leonskaya, la dernière donc composée par Schubert. Un monument.
Un monument incroyable. Ce qu'on pourrait dire, on l'a dit de Beethoven, mais là, c'est la fin de la sonate. Quoi. C'est l'aboutissement, l'accomplissement
de la sonate,
extraordinaire. Oui. C'est une œuvre d'une telle dimension émotive, c'est terrible, c'est une œuvre terrible. Hein.
Terrible, et qu'elle porte, comme elle a porté les premières sonates de Beethoven, qu'elle porte à l'incandescence, et avec un sens, ce que disait Serge est très vrai, c'est un temple cette sonate, c'est un temple parfait pour la musique, et elle le célèbre avec une maîtrise et une émotion aussi. Moi je l'ai écouté plusieurs fois par elle en concert, et c'est chaque fois quelque chose, une source d'émerveillement. Terminer le festival sur ce chef-d'œuvre avec une reine du piano et en même temps une poétesse du piano comme Elisabeth Leonskaya, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux.
Alors je vais vous livrer une petite anecdote à ce sujet, à la fois à propos d'Elisabeth Leonskaya et à propos de cette sonate D960, la dernière composée par Schubert. Il y a quelques semaines, j'ai interviewé Adam Laloum, qui s'est produit au Festival de Toulouse, et il a joué pour la première fois en concert la 960. Il n'avait jamais joué en concert. Il était d'ailleurs assez intimidé. Avant, il a fait ça de façon vraiment comme d'habitude. Hein. Mmh. Vous savez quel Schubertien il est. Eh bien, il l'avait entendu pour la première fois en concert, à piano jacobin, joué par Elisabeth Leonskaya. Il avait eu la révélation ce jour-là de sa passion pour Schubert et de cette pièce. Il a attendu très longtemps avant de s'y confronter en concert.
Voyez
un peu la transmission aussi, comment elle se fait. Elle se fait aussi à travers des festivals comme le vôtre qui invitent des musiciens comme Elisabeth Leonskaya. Impossible de conclure cette présentation et cette émission sans écouter Elisabeth Leonskaya. La voici dans une interprétation du scherzo, c'est le troisième mouvement de la sonate D960 de son cher Franz Schubert. Thank you. Le troisième mouvement Scherzo de la sonate D960 de Franz Schubert, un extrait d'un CD enregistré par Elisabeth Leonskaya, qui joue donc cette pièce lors du concert de clôture de la 46e édition de Piano Jacobin, le mardi 30 septembre à 20h, un concert qu'elle donne en compagnie du jeune pianiste hongrois Mihály Belecz. Avec lui ou à quatre mains. Je rappelle que tous les concerts, sans exception, ont lieu au cloître des Jacobins et que tous commencent à 20h. Je vous invite donc à consulter le site web du festival pour avoir tous les détails de la programmation, pour vous renseigner et pour réserver et acheter vos places en ligne à l'adresse www.pianojacobin.com. Avant de conclure ce numéro de rentrée de Mélomanie, il me reste à remercier ceux qui y ont participé. Merci à Serge Chauzy qui m'a assisté dans l'animation de ce numéro. Et merci à Paul-Arnaud Péjouan qui nous a présenté les artistes invités à Piano Jacobin 2025. J'espère que nous vous aurons donné envie d'aller écouter tous ces merveilleux musiciens dans le décor si agréable du cloître des Jacobins au soleil couchant les soirs de septembre. Merci également à Jonathan Botello pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à nos auditeurs pour leur fidélité à Mélomanie. Excellente rentrée musicale à tous.